Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Eliott Baucher. À la réalisation, Alexandra Candilonquet. À la technique, Jean-Guilain Meige.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre procès du capitalisme touche à sa fin. Dernier épisode d'une série qui nous a entraînés aux origines de l'accumulation des richesses et de la croissance. À présent, c'est la mort du capitalisme, annoncée autrefois par Marx et Schumpeter, que nous allons envisager. Une hypothèse de plus en plus crédible selon les apôtres de la collapsologie, cette théorie qui prophétise l'effondrement de notre civilisation industrielle. Alors la crise environnementale va-t-elle donner le coup de grâce au capitalisme ? Peut-on au contraire réformer le système et continuer à croître sans risquer l'apocalypse ? Le débat est officiellement ouvert. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler de la fin espérée ou redoutée du capitalisme en compagnie d'Hélène Olivier, économiste de l'environnement, professeure associée à l'École d'économie de Paris et chargée de recherche au CNRS, en compagnie également de Jean-Marie Haribet, en duplex de Bordeaux, maître de conférence honoraire à l'Université Bordeaux-Montaigne, membre des économistes atterrés et du conseil scientifique d'Attac, et auteur de « La richesse, la valeur et l'inestimable, fondement d'une critique socio-écologique de l'économie capitaliste » paru au Lien qui libère. À 14h50, on retrouvera le journal de l'écho, présenté comme chaque jour par Xavier Martinet.
L'anthropisation de la Terre, qu'observait déjà Humboldt, a atteint un seuil critique dans des domaines qu'il n'avait pas prévus. Le réchauffement global, l'érosion de la biodiversité, l'acidification des océans, la pollution des eaux, des terres, des sols. Il est même possible de considérer les activités humaines récentes dans le domaine biologique comme étant devenues la pression de sélection dominante. Des produits nouveaux comme les antibiotiques, les pesticides, les OGM se conjuguent à la dissémination de nouvelles espèces dans de nouveaux habitats, à la circulation d'agents pathogènes aptes à sauter les barrières d'espèces, à la monoculture intensive et aux effets sélectifs de températures plus élevées de l'atmosphère et des océans pour altérer les processus évolutifs. Comme l'écrit le spécialiste d'écologie marine Stephen Palumbi, je le cite, « Les humains sont maintenant la plus grande force évolutionnaire sur la Terre ».
Bonjour Hélène Olivier et Jean-Marie Haribet.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est la voix de l'anthropologue Philippe Descola que l'on vient d'entendre. Il s'exprimait lors d'un colloque au Collège de France, c'était le 6 novembre 2015. Alors d'abord, peut-être un premier mot sur l'impact de l'homme sur l'environnement. C'est un phénomène qui a pris aujourd'hui une ampleur, une diversité peut-être que le naturaliste allemand Humboldt, qui est cité ici par Philippe Descola, était loin d'imaginer au 19e siècle, Hélène Olivier.
Alors... Oui, en effet, le changement climatique dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose qui est lié donc à l'accumulation des gaz à effet de serre, qui est en gros le résultat de la révolution industrielle et de tout ce qu'on a pu voir au cours du 19e et du 20e, avec une augmentation énorme de la production et de l'extraction des ressources, notamment des énergies fossiles. Et ce changement climatique, on a beaucoup de mal à anticiper ses conséquences et à savoir exactement vers quoi on va. Du coup, beaucoup de gens peuvent éventuellement penser qu'on va vers l'effondrement, qu'on a atteint un niveau d'utilisation des ressources naturelles qui est tel que cela n'est plus supportable par la Terre, par la planète. Je trouve que l'image est très percutante et très utile d'un point de vue pédagogique pour essayer de faire comprendre que le problème est sérieux.
Cette image de l'effondrement qui est mise en avant par les collapsologues.
C'est simplement de dire que voilà, on est vraiment à un niveau d'utilisation des ressources qui est extrême et les conséquences sont inconnues.
Alors, on va venir un peu plus tard à la question, effectivement, de la colapsologie et ce qu'elle a pu apporter. Mais d'abord, un premier mot, Jean-Marie Haribet, sur ce constat de la dégradation de l'environnement causée par l'action humaine. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés devient de plus en plus irréaliste.
Je partage évidemment le constat, mais je ne le rattacherai pas directement et uniquement à la dite cause humaine. Bien sûr, c'est l'humanité qui est ici interrogée, mais il faut, pour comprendre la nature de la crise devant laquelle nous sommes, il faut replacer ce constat dans le cadre d'une crise globale du capitalisme devenu mondial aujourd'hui, et qui pour la première fois dans l'histoire humaine, et a fortiori dans l'histoire du capitalisme, se conjugue dans de multiples dimensions. Et pour schématiser les choses, une première dimension sociale, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on est face à une crise de rentabilité du capital, situation qui revient périodiquement dans son histoire du capitalisme, mais qui revêt aujourd'hui un visage particulier, celui de la dégradation de la condition salariale et la chute des gains de productivité du travail. Donc, avec la contradiction entre le fait que la dégradation du travail est à la source des difficultés de rentabilité et en même temps la croyance capitaliste que dégrader un peu plus le travail permettrait de relancer la rentabilité. Et ça ne marche pas. Et surtout, ça ne marche pas durablement. Pourquoi ? Parce que s'ajoute là maintenant, de manière inédite, une crise d'ordre écologique, l'épuisement des ressources qui vient d'être dit, celle de la biodiversité, et puis le changement climatique qui est maintenant à l'œuvre, avec une déconnexion, non pas absolue, mais simplement relative entre l'émission des gaz à effet de serre, l'utilisation des énergies par rapport à la production, ce qui fait que cette utilisation et cette émission de gaz à effet de serre continuent toujours d'augmenter de manière absolue. En dépit de la déconnexion, de l'amélioration de nos moteurs thermiques, par exemple, mais qui ne suffit pas à éviter ce qu'on appelle l'effet rebond.
Alors, vous nous amenez au cœur du problème, Jean-Marie Haribet. Il faut qu'on y aille pas à pas. Effectivement, j'aimerais entendre Hélène Olivier sur cette question. Est-ce qu'il faut incriminer le capitalisme? C'est le cœur de notre sujet, l'esprit, l'essence du capitalisme, ou peut-être une version dévoyée du capitalisme qui serait une version plus récente, en particulier le capitalisme mondialisé. Un chiffre avant de vous donner la parole, Hélène Olivier, en 1900, il y avait moins de 2 milliards de tonnes de CO2 qui avaient été relâchées dans l'atmosphère. Et un peu plus d'un siècle plus tard, on est passé de 2 à près de 37 milliards de tonnes. Donc on voit qu'il y a vraiment eu une accélération au XXe siècle.
Alors la responsabilité du capitalisme, c'est vrai que ce n'est pas du tout une question que je vois abordée dans les sphères académiques. Nous, en tant que chercheurs en économie de l'environnement, on va plutôt s'intéresser à l'impact du lobbying, l'impact de la faiblesse démocratique, éventuellement quelque chose sur lequel on va revenir, je pense, c'est l'acceptation sociale des politiques environnementales. La raison, c'est sûrement que pour un économiste dans l'environnement, le mot qui vient à la bouche de manière systématique, c'est régulation. On est face à un problème, le problème environnemental, qui est l'absence de droit de propriété sur l'air, et du coup, et aussi des externalités, c'est-à-dire que mon action vous impacte et vous ne pouvez pas me rendre responsable de cet impact-là. Et le changement climatique est particulièrement complexe parce qu'il est sur deux dimensions. C'est-à-dire que d'un côté, c'est la dimension internationale, il faut se partager ce stock de carbone dans l'atmosphère entre tous les pays du monde, donc mettre sur la place, sur la table ronde finalement tous ces gens. Et ensuite, il y a la dimension intergénérationnelle. Et face à ce constat d'un gros problème d'externalité à l'échelle internationale et intergénérationnelle, ce que l'on dit, c'est qu'il faut absolument que l'État agisse.
Alors toute la question étant, est-ce que l'action de l'État sera suffisante, Jean-Marie Haribet, parce que on voit que c'est dans ce contexte qu'a été forgée cette notion de croissance verte ou de développement durable. Est-ce que pour vous, c'est une hypothèse que l'on peut choisir?
Mais ce que vient de dire Hélène Olivier est tout à fait intéressant parce qu'à contrario, il permet de mettre le doigt sur le fait que on nous on nous dit que les économistes de l'environnement nous disent qu'il y a une insuffisance de droits de propriété. Or, justement, c'est l'élargissement permanent du droit de propriété. Marx parlait de la marchandisation généralisée des activités humaines. C'est l'élargissement permanent de ce droit de propriété qui est à la source du problème. Et aujourd'hui, on voit effectivement, il n'y a pas de droit de propriété sur l'air, mais seulement le marché des permis d'émission est un ersatz de droits de propriété sur l'atmosphère, dans la mesure où celui qui a les moyens, effectivement, d'acheter des droits d'émission supplémentaires sur le marché, eh bien, il va s'approprier, non pas l'air, mais le droit d'utiliser l'air comme bon lui semble, ou le droit d'utiliser l'eau comme bon lui semble, ou le droit d'utiliser les autres sources d'énergie, ou bien toutes les matières premières, et les connaissances sur les espèces vivantes aujourd'hui. Donc, la tentative actuelle du capitalisme pour justement sortir de sa phase de rentabilité insuffisante aux yeux des détenteurs de capitaux est d'élargir effectivement le champ de la propriété privée. Et on voit aujourd'hui que la finance internationale est en train d'imaginer un très très grand nombre de produits financiers tout à fait nouveaux, comme les obligations vertes, comme les obligations catastrophes, qui permettent de compenser les dégâts que les investisseurs pourraient occasionner en réalisant leurs affaires, en projetant les affaires dont ils espèrent une rentabilité élevée. Et donc, l'action de l'État, puisque c'est allé votre question, l'action de l'État est absolument indispensable pour effectivement fixer des normes décidées démocratiquement, de telle sorte que non pas le marché irait en s'élargissant, mais au contraire serait borné à l'intérieur des normes que la société déciderait, tant du plan écologique que sur le plan social, comme je l'indiquais tout à fait en introduction.
Vous parlez des obligations vertes. Justement, je voudrais vous faire entendre Mac Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, pour qui le dérèglement climatique doit être pris en compte par la finance mondiale.
Nos sociétés font face à une série de graves défis environnementaux et sociaux. La conjonction du poids des preuves scientifiques et de la dynamique du système financier laisse penser que, avec le temps, le changement climatique finira par menacer la résilience de la finance et, à plus long terme, la prospérité. Même s'il est encore temps d'agir, la fenêtre d'opportunité est limitée et se referme. En nous fondant sur une meilleure information, nous pouvons enclencher un cercle vertueux, celui d'une meilleure compréhension des risques à venir, de meilleurs prix pour les investisseurs, d'une meilleure prise de décision par les politiques et d'une transition harmonieuse vers une économie bas carbone. En gérant ce qui doit être mesuré, nous pourrons briser la tragédie à l'horizon.
Discours prononcé le 29 septembre 2015 devant le Lloyd's de Londres, le marché de l'assurance britannique, un discours qui a parfois été qualifié d'historique. Une réaction par rapport à ça, Hélène Olivier, et aussi par rapport à ce que Jean-Marie Haribé considère comme une extension du capitalisme, cette finance verte.
Alors sur la possibilité de mettre un prix sur l'air, notamment via les marchés du carbone, et le fait de finalement donner une valeur à ce qui aujourd'hui n'en a pas, je pense que c'est pas vraiment, pour moi en tout cas, c'est pas à mettre du côté de la responsable, c'est plutôt du côté des solutions qui sont trouvées pour essayer de faire prendre conscience aux gens que polluer a un coût social, qu'il faut éventuellement l'intégrer pour pouvoir changer nos comportements et que, par exemple, donc, j'ai travaillé sur le marché du carbone européen qui met en place donc, un système européen où toutes les entreprises d'une certaine taille sont obligées d'acheter des permis pour pouvoir polluer.
Il faut peut-être expliquer l'origine de ce mécanisme. C'est Arthur-Cécile Pigou, l'économiste, qui avait le premier vu que les entreprises devaient intégrer le coût de la pollution de leur action afin qu'elles soient incitées à moins polluer.
C'est ça, c'est exactement ce mécanisme. C'est-à-dire que si aujourd'hui polluer est quelque chose de gratuit, alors on se retrouve à polluer plus finalement que ce que la société ne devrait accepter. Et donc, un des rôles de l'État ou de la réglementation environnementale, c'est de dire, bon, bah, on peut estimer que le coût social de cette pollution, il est dans cet ordre-là, où on va mettre un quota global sur toutes les pollutions de CO2 notamment, à l'échelle européenne, pour que les entreprises se limitent à ça, parce que finalement, le changement climatique, c'est bien parler d'un quota. On est obligé de parler d'un stock de gaz à effet de serre qui sont dans l'atmosphère ou que l'on doit potentiellement émettre chaque année. Et donc, le marché du carbone, c'est une solution.
Alors, est-ce que c'est une solution, mais est-ce que c'est une solution qui ne s'appuie pas sur un fondement théorique, Jean-Marie Haribet, selon lequel la nature est vue comme un capital comme un autre, ce qui pose toute une série de questions.
Tout à fait, mais je reviens un instant sur, pour établir un fait. Les quotas d'émissions qui sont mis sur le marché européen ne sont pas à acheter par les entreprises soumises au protocole de Kyoto, puisque ces quotas leur sont attribués, en tout cas dans toutes les premières périodes d'application du protocole, gratuitement. Et ce n'est que le supplément au cas où elles dépasseraient leur quota attribué gratuitement, qui serait à acheter aux entreprises qui en auraient un petit peu en surnombre.
Et elles sont plus ou moins incitées selon le prix du carbone, selon s'il est élevé ou non. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que ce prix serait trop bas.
Mais c'est ce qui explique justement que depuis 2005, c'est-à-dire maintenant près de 14 ans que ce marché a été institué, le cours de la tonne de CO2 s'est effondré et remonté un tout petit peu au cours des 2-3 dernières années, mais sans atteindre le prix que maintenant tous les experts estiment nécessaire pour que les comportements soient effectivement modifiés. Mais attention aussi sur le terme de modifier les comportements. On a vu avec l'affaire de la taxe carbone à répétition en France combien l'introduction d'une fiscalité écologique qui n'est pas accompagnée d'une transformation des structures productives et en même temps d'un accompagnement social pour faire en sorte que ceux qui ont à payer le prix de la pollution ne soient pas uniquement les catégories sociales les plus défavorisées qui ont des revenus les plus faibles. Et donc il y a cette double condition pour que l'introduction d'un prix, parce que on va le voir tout à l'heure sans doute avec la question de la collapsologie, mais je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait des prix qui soient fixés sur l'utilisation de la nature et sanctionnant les pollutions. Mais à condition, je le répète, que deux conditions soient extrêmement remplies simultanément, à savoir la transformation des structures productives pour qu'on produise de la qualité et non pas des choses qui deviennent obsolètes au bout de quelques mois, et puis que les couches sociales les plus démunies, les plus faibles, ayant les revenus les plus faibles, puisse être accompagné dans cette mise en place d'une fiscalité écologique et de la fixation d'un prix du carbone.
Hélène Olivier.
Je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense que c'est vraiment le constat que font la plupart des économistes de l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place une politique environnementale de type taxe, notamment en France, si on n'accompagne pas avec des politiques de redistribution. Alors ça peut être fait via des politiques d'investissement, en essayant d'aider les gens à investir dans des solutions bas carbone, par exemple pour se chauffer, pour se circuler, etc. Mais il faut absolument qu'il y ait cet accompagnement, sinon on aboutit à un blocage très fort, comme on a pu le constater avec les gilets jaunes et les bonnets rouges.
Mais alors, sur les fondements théoriques de cette idée d'une croissance verte, est-ce que ça pose pas un problème, Hélène Olivier, de donner une valeur à la nature et d'estimer que le capital naturel et le capital humain, par exemple, seraient en quelque sorte interchangeables?
Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on fait. En fait, ce qu'on fait, c'est plutôt essayer d'estimer le coût social de la pollution. Et ça, ça a une valeur, c'est-à-dire c'est le nombre de gens qui vont mourir des conséquences de cette pollution, c'est toutes les hospitalisations qui résultent de la pollution par exemple, ou alors plus généralement sur le changement climatique, c'est tous les coûts qu'il va falloir éventuellement prendre en compte. Évidemment, ce coût social, il est très très difficile à évaluer. Et donc il peut y avoir énormément de critiques et de... d'incertitude finalement sur la valeur qu'il faut mettre. Évidemment, je suis complètement d'accord avec le fait que le prix du carbone dans le marché européen, il a toujours été trop faible. Mais ça, c'est pour une question de courage. C'est parce qu'on n'a pas été capable de mettre le seuil total des émissions à échanger à un niveau plus faible. Si on le faisait, le prix monterait.
Et donc c'est ce qui explique que les comportements ne changent pas, selon vous, Hélène Olivier. Que cette volonté d'inciter à un changement des comportements se heurte à un mur, finalement.
Je dirais que on n'a pas encore véritablement... Après, il y a des exemples dans lesquels on voit éventuellement un succès. Je dirais un tout petit exemple, c'est le protocole de Montréal, par exemple, sur la pollution... qui ensuite entraînait le trou dans la couche d'ozone. Je ne sais pas si les gens se rappellent.
Alors, rappelez-nous.
Donc, dans les années 80, je crois, on a découvert qu'il y avait véritablement un problème avec les aérosols et que ces aérosols, en étant émis dans l'atmosphère, généraient un trou dans la couche d'ozone. Bon, à ce moment-là, les États se sont mis ensemble, ont discuté d'une solution négociée pour trouver un petit peu comment faire pour réduire cette pollution-là. Et ils ont abouti à un accord avec les industriels parce qu'il existait une solution technique de remplacement, finalement. Et donc, on peut, dans certains cas, aboutir à une solution. Je ne dis pas que c'est infaisable. Simplement, sur le gaz à effet de serre, on est face à un problème qui est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'États qui doivent intervenir. Et il y a cette dimension intergénérationnelle aussi qui est difficile à saisir.
En tout cas, l'impact du capitalisme sur l'environnement a été théorisé dès les années 70 par un économiste américain d'origine roumaine, Nicolas Georgescu-Rogan. On l'écoute.
Dans nos activités, nous utilisons la matière en bloc. Et la matière en bloc se gâte, se dissipe, pas aussi vite que l'énergie, mais quand même. Et c'est aussi une autre chose, que la difficulté de quelques transformations porte à ce que la transformation nécessite trop de matière. Et que la reproduction, l'entretien de cette matière ne peut pas se faire avec l'énergie qui est produite par la transformation. Le meilleur exemple sont les collecteurs solaires. Les collecteurs solaires sont aujourd'hui produits avec l'énergie des combustibles fossiles. Ils ne peuvent pas être produits par l'énergie qu'elles obtiennent. Il y a tant d'énergie dans l'univers, mais il n'est pas accessible parce que le travail pour la porter d'où elle existe, sur la Terre ici, pour l'utiliser, est plus grand que l'énergie qui est obtenue.
Nicolas Georgescu-Rogan, qui était donc sur France Culture le 23 juin 1980. Jean-Marie Haribet, que vous inspire ces propos de Georgescu-Rogan autour d'un mythe, d'une éternelle transformation de la matière que lui dénonce ici?
Si l'on prend au sérieux l'enseignement de Georgescu-Rogan, la croissance et la croissance verte ne sont impossibles. Il n'y a pas de croissance économique infinie sur une planète bornée. Et donc, je crois que là, il y a tout un discours aujourd'hui dans les instances internationales, chez la communauté académique des économistes de l'environnement également, qu'il faudrait appeler économistes néoclassiques de l'environnement. Il y a tout un discours concernant maintenant la croissance qui pourrait se verdir, la croissance qui pourrait donc s'éterniser. Bon, ça, c'est une vue de l'esprit et qui a une portée idéologique, bien sûr, tout à fait visible, de la même façon que l'introduction du concept de capital naturel à côté du capital au sens économique et financier, du capital social, du capital humain, l'addition de toutes ces sortes de capitaux est une addition impossible, parce que quel est le dénominateur commun, quelle est l'unité de mesure commune à ces quatre sortes de soi-disant capitaux, elle est impossible à trouver. Et donc, si vous regardez tous les rapports internationaux, que ce soit ceux de la Banque mondiale, que ce soit ceux de l'OCDE, que ce soit ceux de l'Organisation de coopération économique et de développement économique, que je disais, et puis ceux du Fonds monétaire international, vous avez dans tous ces rapports l'idée que l'on pourrait maintenant prendre en compte la nature en la considérant comme un capital, mais qui dit capital dit moyen à rentabiliser. Et donc c'est là où on se heurte à la même difficulté que celle que j'énonçais tout à fait au début. Et le paradoxe, et je dirais même la contradiction, est que nombre d'organisations non gouvernementales écologistes se laissent prendre à ce piège. Par exemple, l'association WWF, mondialement connue, a estimé il y a 3 ou 4 ans, que les océans avaient une valeur de 25 000 milliards de dollars et que le flux annuel de production des océans, sans parler de la pêche que l'on y exerce, hein, que l'on y effectue, le flux annuel de valeur créée par les océans serait de 2 500 milliards de dollars, c'est-à-dire les placerait dans le top 10 des PIB mondiaux.
Donc vous y voyez une généralisation de cette idée d'une croissance verte. Je voudrais entendre Hélène Olivier là-dessus, parce qu'on peut se demander effectivement si une croissance infinie a du sens dans une planète finie, Hélène Olivier.
Alors, je ne suis pas du tout macroéconomiste et donc je ne crois pas à la croissance infinie. Je pense que il y a finalement...
On parle de croissance verte, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans les termes? Et c'est d'ailleurs ce que dénonce Georgescu-Rogan.
Oui, non, en soi, je suis d'accord. Il y a plusieurs points sur lesquels il y a peut-être éventuellement une voie de sortie. On peut penser que la croissance, c'est pas uniquement qu'une croissance de la matérialité, c'est pas qu'une croissance des consommations, par exemple. Et notamment, les économistes définissent comme croissance la pensée, l'innovation. Et une croissance verte, ça voudrait dire éventuellement avoir des pensées, des innovations qui se font du côté des énergies vertes, qui se font du côté des technologies qui vont être peu ou pas émettrices de gaz à effet de serre et non pas du côté des énergies fossiles, etc.
Donc vous êtes d'accord avec cette loi de l'entropie de George S. Couragan, selon laquelle si on transforme de la matière, il y aura de toute façon une déperdition et donc il ne peut pas y avoir un cycle infini de la croissance.
Alors oui, je pense que le cycle infini de la croissance, je pense que ces termes d'entropie sont corrects d'un point de vue physique, mais pour l'apporter au domaine économique, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à accepter ce passage.
Jean-Marie Haribet, sur cette loi de l'entropie.
Bien sûr, ce passage est nécessaire parce que il n'y a pas d'économie immatérielle. Même tout le monde sait que dans la production de quasiment tous les pays au monde, maintenant la proportion des services, donc immatériels, est devenue prépondérante par rapport à la production industrielle et à la production matérielle, la production agricole, pardon, toutes deux matérielles. Mais ça n'empêche pas que à la racine de la production des services, il y a de la matière. Nous sommes en train de communiquer par duplex, par Internet, etc. Mais Internet, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec des réseaux de communication extraordinairement développés. Il y a des satellites dans l'atmosphère pour lesquels il faut envoyer des fusées pour les mettre en place, etc. Et donc de l'énergie.
Et tout dépend peut-être aussi de l'état d'avancement du pays dont on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des économies plus de la connaissance, pour le dire schématiquement, dans le Nord, et des économies qui auront plus besoin d'extraction de matières premières dans le Sud?
Alors justement, vous avez tout à fait raison, et donc il faut extrêmement faire attention au fait que la dématérialisation toute relative des économies, et non pas absolue, la dématérialisation relative des économies fait que la richesse pourrait se polariser encore davantage à un pôle de la planète et au détriment des économies dites émergentes ou qui ne sont pas encore même dans le stade de l'émergence. Donc je crois qu'il faut prendre au sérieux l'avertissement de George Couragan, la loi de l'entropie. Il faut bien voir que le système de la Terre n'est pas un système isolé, parce que nous recevons un flux d'énergie solaire, ce que disait George Couragan, en permanence, et que ce flux d'énergie solaire, c'est lui qui permet de reproduire la vie, de la complexifier. Mais le temps de la reproduction de la vie, le temps de la complexification de la vie n'a strictement rien à voir avec l'horizon économique humain. L'horizon économique, c'est combien? C'est 10 ans, 15 ans maximum. Hein, les investissements n'ont pas de portée plus grande que ce laps de temps.
Et alors, George S. Couragan était peut-être un collapsologue avant l'heure. En tout cas, il va falloir parler des effets de cette collapsologie. On va en parler dans un instant, Jean-Marie Haribet.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Smiling up.
Nothing But Flowers des Talking Heads sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Hélène Olivier et Jean-Marie Arribet sont toujours avec nous pour parler de l'hypothèse de la mort du capitalisme.
Il y a des sociétés qui se sont effondrées parce qu'il y avait des raisons environnementales. Les Mayas sont un bon exemple. Au Mexique, au Guatemala, les peuples dans d'autres régions. Prenez par exemple les gens des plateaux de Nouvelle-Guinée. Là, ces gens-là vivent depuis des dizaines de milliers d'années au même endroit. La grande question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir si en Europe et aux États-Unis ou au Japon, nous allons résoudre nos propres problèmes environnementaux ou si notre société va s'effondrer dans les quelques décennies à venir. Tout cela dépend de la capacité que nous avons à apprendre des sociétés traditionnelles. Est-ce que nous arriverons à gérer nos ressources de manière durable? Est-ce que nous saurons arriver à un niveau de vie à peu près équilibré partout dans le monde?
Le biologiste et géographe Jared Diamond, invité de la Grande Table sur France Culture, c'est lui qui a inspiré la théorie de la collapsologie avec son livre « Effondrement, comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ». Hélène Olivier, qu'est-ce que vous pensez de cette thèse d'un effondrement imminent de notre civilisation industrielle telle qu'il a pu être, qu'elle a pu être développée par Jared Diamond ?
L'exemple... les exemples pris par Jared Diamond sont très intéressants parce que ils rendent concret finalement la possibilité d'une disparition des sociétés. Donc, par exemple, l'île de Pâques est un exemple qui a été beaucoup étudié par les économistes de l'environnement pour essayer de comprendre comment est-ce que en gérant finalement mal la ressource, notamment forestière, une société a pu aboutir à s'autodétruire en fait. Et je dirais que pour moi, j'utilise ces exemples-là à des fins pédagogiques, c'est-à-dire pour comprendre que dans le passé, on a vu des sociétés qui ont fait face à des problèmes environnementaux tels qu'elles ont disparu, en gros.
Et alors, est-ce que c'est une situation à laquelle on pourrait être confronté aujourd'hui, Hélène Olivier ? Parce qu'il parle effectivement d'un effondrement imminent dans les décennies qui arrivent.
Alors, je pense que la probabilité de ça est non nulle. C'est-à-dire que je suis incapable de prédire l'avenir, mais on n'a aucune idée de savoir qu'est-ce que vont faire plus 3, plus 4 degrés sur la température moyenne du climat. Et pour prendre un petit exemple sur l'adaptation de nos sociétés, par exemple, à un changement climatique, je voudrais éventuellement parler de la petite ère glaciaire qui a eu lieu au Moyen-Âge entre le 14e et le 19e. On a eu une baisse de moins de 1 degré de la température moyenne sur la partie nord de la Terre. Et ça s'est manifesté par des hivers très rigoureux, énormément de famines, des millions de morts, etc.
Donc 3 ou 4 degrés, on peut imaginer les conséquences que ça représente.
On n'a aucune idée.
Jean-Marie Arribet.
Alors, je pense qu'il faut toujours saluer la publication d'un pavé qui remue les choses, qui remet la discussion sur les points essentiels et donc qui oblige à réfléchir. Et donc, la publication de Diamond, il y a quelques années, a donc mis au grand jour cette idée qu'il serait possible qu'un effondrement se produise. Le problème avec Diamond, c'est que il attribue au final la cause première de ces effondrements qu'il cite à la croissance de la population. Et sans jamais relier cela à l'évolution des structures économiques, politiques, des sociétés dans lesquelles cette population se déroule. Et donc c'est ça la faille et qu'on va retrouver chez les collapsologues. Pour les collapsologues, il va y avoir effondrement, mais le capitalisme est totalement ignoré. Et qu'est-ce que ça veut dire ignorer le capitalisme ? C'est-à-dire qu'on ignore les rapports sociaux dans lesquelles se déroulent ces activités humaines. Et au début de la semaine, vos invités le disaient, hein, le capitalisme se définit par les rapports sociaux tout à fait particuliers qui prédominent depuis maintenant trois siècles environ. Et donc l'ignorance du capitalisme fait qu'on va aboutir à des solutions dans un instant qui vont être extrêmement fragiles. Je pense que la faille première des collapsologues, c'est de passer sous silence la dimension des rapports sociaux dans lesquels le soi-disant effondrement s'effectuerait.
Ce qui pose plusieurs questions, Jean-Marie Arribet, notamment, est-ce que effectivement la collapsologie contribue à dépolitiser la question environnementale, Hélène Olivier, et puis est-ce que finalement ça incite à d'abord se préparer à l'effondrement plutôt que de tenter de l'empêcher, Hélène Olivier ?
Alors, par rapport à cette dualité que vous venez de mettre en évidence, je voudrais en effet insister là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux types de politiques que l'on doit mettre en place face au changement climatique. Il y a une première politique qui est de mitigation, c'est-à-dire réduire les émissions de gaz à effet de serre, trouver les moyens de décarboniser l'économie. Donc ça, c'est finalement empêcher que le changement soit très important. Il faut forcément qu'on passe par cette phase-là. Et la deuxième chose, c'est s'adapter. C'est-à-dire, on sait qu'il va y avoir changement climatique. On sait qu'un réchauffement d'au moins 2 degrés est très probable. Donc, comment fait-on pour adapter nos sociétés et éventuellement empêcher finalement cet effondrement?
Donc, c'est une bataille des priorités. Est-ce qu'il faut d'abord s'adapter ou est-ce qu'il faut d'abord empêcher l'effondrement?
Il faudrait faire les deux. Mais si on échoue sur la première, il faut absolument faire la seconde.
Jean-Marie Arrimé.
Oui, mais ce que vous dites, Hélène Olivier, est tout à fait de bon sens. Effectivement, il faut que nous nous adaptions. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les engagements qui ont été pris dans toutes les COP qui se sont déroulées sous l'égide des Nations Unies depuis Rio de Janeiro, là, le fameux sommet de la Terre en 1992, tous ces engagements, aucun d'entre eux n'a été véritablement tenu. La COP 21, dont on a fait grand cas à Paris il y a quelques années, en 2015, la COP 21 n'a débouché sur pratiquement aucun engagement concret. Les investissements qui seraient nécessaires pour amorcer une véritable transition écologique et donc contenir véritablement le réchauffement climatique, ces investissements sont inexistants. Et aujourd'hui, on sait que la majorité des crédits accordés à l'économie sont toujours destinés vers les énergies fossiles et non pas vers les énergies renouvelables. Alors bien sûr, il y a des frémissements, il y a un tout début, mais peut-on croire que c'est à la hauteur des enjeux s'il faut atteindre la neutralité carbone à l'échéance de 2050? C'est-à-dire dans pile 30 ans.
Et on sait aujourd'hui que les énergies fossiles dominent encore très largement le mix énergétique mondial et qu'ils vont continuer à le faire.
D'investissement, de crédit ou de subvention. Hein, il y a les trois choses, hein, d'investissement, de crédit et de subvention. Et donc là, il y a véritablement la prise de conscience qu'il faut s'adapter, mais les moyens pour cette adaptation ne sont pas réunis.
Alors des moyens insuffisants, Jean-Marie Arribé, et on le voit peut-être d'autant plus qu'il y a eu un véritable succès des théories de l'effondrement, qui est peut-être une manière pour la société civile justement de réagir par rapport à ce qu'elle voit comme une inactivité, une inaction politique par rapport à la question environnementale.
Bon, j'ai lu attentivement les livres qu'ont publiés les collapsologues français. Collapsologues, c'est le nom qu'ils se sont donné eux-mêmes.
Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui ont publié Comment tout peut s'effondrer et tout de même tout à vendu fait. À 70 000 exemplaires.
Bon, ils font de la complexité des systèmes écologiques, comme des systèmes économiques et financiers, la cause de la fragilité de ces systèmes. Or, l'utilisation de la notion de complexité est en contradiction avec celle qu'utilisent les scientifiques, parce que la résilience des réseaux est d'autant plus forte que se concentrent les liens entre les éléments constitutifs du réseau. Et lorsque se produisent des défaillances en des points peu reliés au reste, alors effectivement le risque d'effondrement s'avance. En revanche, si les défaillances se produisent dans les centres de ces réseaux, dans les noyaux de ces réseaux, la résilience... Là, c'est un concept tout à fait scientifique. La résilience l'emporte sur l'effondrement. Et les collapsologues placent l'intuition comme désormais la source de notre prise de conscience. Donc, et par suite de la prophétie de l'effondrement. Et le philosophe Jean-Pierre Dupuis, que sans doute vous connaissez, il ne va pas de main morte en disant que c'est un sixième sens qui met les collapsologues en rapport direct avec l'avenir. Mais c'est prendre, dit Jean-Pierre Dupuis, les lecteurs pour des débiles mentaux. Mmh. Donc ça veut dire que maintenant la rationalité des choix sociétaux s'est fondée sur l'intuition et en mettant au second plan la question de l'avancée des connaissances sur toutes ces questions éminemment techniques, bon, est effectivement quelque chose qui n'est pas de nature à rassurer l'opinion. Alors bien sûr, à faire un buzz dans les médias, ça, il faut reconnaître qu'ils ont parfaitement réussi leur...
Mais d'ailleurs, Jared Diamond a été critiqué assez rapidement... Hélène Olivier, tous ses travaux ont fait l'objet d'un certain nombre de critiques et de travaux en réponse. Donc ce qu'on voit, c'est que la collapsologie, dès le début, a porté des critiques qui lui ont été consubstantielles en quelque sorte.
Oui, mais c'est vraiment, il faut utiliser ça comme une image, c'est-à-dire juste pour essayer de réveiller les gens et de faire prendre conscience que le changement climatique est réel et potentiellement dangereux. Après, je pense qu'il ne faut pas les écouter plus que ça.
De la même façon, le concept, ça me fait penser au concept d'anthropocène, alors qui est un concept reconnu, mais qui est toujours en débat. Donc le concept d'anthropocène, c'est cette nouvelle ère géologique caractérisée par l'influence majeure de l'homme sur le milieu terrestre. Officiellement, selon les scientifiques, nous sommes encore dans l'Holocène, donc qui est cet âge interglaciaire qui dure depuis environ 10 000 ans. On voit qu'il y a d'un côté une interprétation scientifique et de l'autre une interprétation peut-être plus métaphorique sur cette idée d'une action de l'homme sur l'environnement. Et c'est à cela que sert le concept d'anthropocène, Hélène Olivier.
Je pense que l'action humaine sur l'environnement, elle a été démontrée. Ça, c'est un fait scientifique. Je pense qu'on est tous dans l'obligation de le prendre. Maintenant, la vraie question auquel il faut qu'on réponde, c'est comment faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Et comment faire pour que le stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ne continue pas d'augmenter? Et voilà, ça c'est une question politique. Et c'est vraiment là où il y a un échec de l'État, il y a un échec de la coopération entre les États. Je partage totalement l'avis selon lequel toutes les négociations internationales, pour l'instant, n'ont abouti à presque rien. Le protocole de Kyoto étant la seule fois où on a réussi à avoir des objectifs chiffrés, mais ces objectifs chiffrés étaient tellement larges, finalement, qu'au final, on n'a pas véritablement réduit les émissions à cause du protocole de Kyoto, ou alors très très peu. Donc du coup, il faut vraiment se poser la question en termes de politique. Comment faire pour faire face au changement climatique? Et je dirais que l'image de l'effondrement peut être éventuellement utile pour faire accepter qu'il va falloir faire des efforts, mais il ne faut pas non plus lui donner trop d'importance.
Alors il y a le débat politique et aussi le débat théorique, puisque la fin du capitalisme a été prédite à de maintes reprises, notamment par Marx et Engels dans le manifeste du Parti communiste publié en 1848. Et pour eux, Jean-Marie Haribé, dans cette critique du capitalisme, il y a cette idée que ce sont les contradictions propres au mode de production capitaliste qui provoquent son effondrement.
C'est effectivement ce qu'il disait. Mais je reviens d'un mot avant d'aborder la question que vous posez sur l'anthropocène, qui ne fait absolument pas consensus aujourd'hui. Hein. Dès que le concept d'anthropocène est apparu il a été suivi immédiatement d'un autre concept antagonique, ou certains diraient peut-être complémentaire, mais je pense qu'il est plutôt alternatif, c'est le concept de capitalocène. Et c'est là où on peut revenir à ce que prévoyaient effectivement Marx et Engels. Ils pensaient peut-être, dans l'euphorie des luttes sociales qui naissaient au XIXe siècle, qu'une lutte sociale plus importante que les autres finirait par mettre à bas le pouvoir de la bourgeoisie. Mais ce n'est pas arrivé, donc chacun le sait. Mais ça ne veut pas dire que le capitalisme n'est pas entré dans un nouveau cycle dont on ne peut pas prédire aujourd'hui quelle sera la fin de ce cycle.
Il faut expliquer peut-être que capitalocène ou occidentalocène sont des mots qui sont utilisés, Jean-Marie Haribé, pour mettre en avant le fait que ce serait avant tout le capitalisme occidental qui serait responsable de la destruction de l'environnement.
Alors, le capitalisme tout court, qui s'est développé en premier lieu au XIXe siècle en Europe et en Amérique du Nord, et puis à peine plus tardivement, au Japon. Ça a été les pôles de développement capitaliste les plus précoces par rapport au reste du monde. Donc effectivement, moi je partage la thèse selon laquelle ce sont les structures capitalistes orientées par la logique du profit maximum et le plus rapidement possible qui sont à l'origine des dérèglements à la fois socio-écologiques que nous constatons aujourd'hui et à l'origine, au final, du fameux réchauffement climatique qui nous pend au nez et qui est sans doute déjà à l'œuvre depuis maintenant un certain temps.
Et ça pose une question qui traverse la théorie économique, et je voudrais entendre Hélène-Olivier là-dessus, c'est la question de la baisse tendancielle du taux de profit. Est-ce que le taux de profit décroît dans le capitalisme, Hélène-Olivier? C'est ce que disait Marx.
Je suis absolument pas pertinente sur ce sujet. Je dois dire que... Pour moi, le problème auquel on fait face, c'est l'utilisation des énergies fossiles. Alors certes, il se trouve qu'on a eu les innovations et les moyens d'exploiter ces énergies fossiles à partir du 19e et notamment pour lancer les grandes industries. Et du coup, ça correspond à peu près à l'âge aussi du capitalisme. Après, dire que c'est le capitalisme ou l'exploitation des énergies fossiles, est-ce que les deux sont liés? Est-ce que l'un est plus responsable que l'autre? Je dirais que j'ai pas véritablement les moyens de
Jean-Marie Haribé
répondre.
Mais Peut-être me suis-je mal exprimé. Il ne s'agit pas de trancher la responsabilité de la combustion des énergies fossiles et du capitalisme. Les énergies fossiles ont été utilisées en grande ampleur. Vous avez raison, Hélène Ollier, par le capitalisme. Ça, c'est indéniable. Il y a une corrélation tout à fait évidente. En revanche, je pense qu'il faut remonter à la racine, c'est-à-dire c'est la logique de l'accumulation du capital infini, potentiellement infini, ou en tout cas à vocation infinie, qui doit être interrogée et donc mise en cause, selon mon point de vue. C'est-à-dire que on n'est pas face, je le disais, on n'est pas face à la crise finale, je n'en sais strictement rien d'ailleurs, la crise finale du capitalisme. Mais le cycle dans lequel on pensait, et le capitalisme, ou en tout cas ses turiféraires, pensaient que le capitalisme pourrait s'avancer sur une trajectoire de croissance infinie, ça, ce cycle-là, il est terminé. Et donc, il faut en prendre conscience. Et donc, il faut, bien sûr, comme vous le dites, Hélène Ollier, il faut s'adapter, diminuer l'utilisation des combustibles fossiles. Évidemment, ça pose le problème de la transition. On ne va pas passer d'un coup de baguette magique d'une économie carbonée au maximum à une économie décarbonée et suffisamment décarboné d'un coup de baguette magique.
Mais ce qui est intéressant, Jean-Marie Arrivé, c'est qu'on constate que chez Marx, la destruction de l'environnement, c'était déjà l'une des causes qui entraînerait la mort du capitalisme. Écoutez cet extrait du Capital.
Dans l'agriculture moderne, de même que dans l'industrie des villes, l'accroissement de productivité et le rendement supérieur du travail s'achètent au prix de la destruction et du tarissement de la force de travail. En outre, chaque progrès de l'agriculture capitaliste est un progrès non seulement dans l'art d'exploiter le travailleur, mais encore dans l'art de dépouiller le sol. Chaque progrès dans l'art d'accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses sources durables de fertilité. Plus un pays, les États-Unis du Nord de l'Amérique par exemple, se développe sur la base de la grande industrie, plus ce procès de destruction s'accomplit rapidement. La production capitaliste ne développe donc la technique et la combinaison du procès de production sociale qu'en épuisant en même temps les deux sources d'où jaillit toute richesse. La terre et le travailleur.
La terre et le travailleur, Jean-Marie Arribé. Que vous inspire cet extrait, lui, ici, par Pascaline Bonnet ?
C'est le génie absolu. C'est-à-dire que deux siècles quasiment avant que nous soyons face à la crise globale du capitalisme aujourd'hui, Marx et Engels ne pouvaient en dessiner que les contours. Bien sûr, les gaz à effet de serre, on n'avait pas encore tout à fait vu les conséquences désastreuses, même si le concept existait déjà.
Mais ce que l'on voit, c'est que le capitalisme semble avoir une capacité à toujours se réinventer, puisque il y a effectivement Marx qui prédisait sa mort prochaine. On peut aussi alors citer Malthus, au tournant du 19e siècle, qui parlait des catastrophes à venir si la démographie ne reculait pas, ou encore Schumpeter au XXe siècle, au milieu du XXe siècle, lui aussi s'est demandé si le capitalisme pouvait survivre. Or, ce que l'on observe, c'est que malgré les crises, le capitalisme a toujours su se réinventer et peut-être même se renforcer aujourd'hui, Jean-Marie Arribé.
Oui, mais vous avez raison. Mais il faudrait éviter de se gausser de ces penseurs du 19e et du début du 20e siècle qui, effectivement, essayaient de conceptualiser ce qu'ils avaient sous les yeux. Donc, ils ne pouvaient pas tout prévoir, évidemment.
Ah, mais personne ne se gausse, mais on se demande si le capitalisme, ce que ça nous dit du capitalisme, cette capacité à se réinventer.
Ce que ça nous dit, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer maladroitement peut-être il y a un instant, à savoir que le cycle de l'illusion de l'accumulation infinie du capital, ce cycle-là est terminé. Est-ce que le capitalisme va réussir à inventer un nouveau cycle d'accumulation fondé sur les nouvelles technologies, fondé sur l'intelligence artificielle, fondé sur la robotisation infinie ? Mais vous voyez la contradiction qui va apparaître immédiatement. Si la robotisation se généralisait partout, ça veut dire qu'on a une puissance productive qui est décuplée, mais que valent les marchandises ? De moins en moins. Et alors, quelle serait la source du profit ? Elle se tarirait. Et donc là, on touche du doigt, effectivement, la contradiction fondamentale que Marx avait eu le génie de mettre à l'évidence, à savoir comme seul le travail produit de la valeur au sens économique, pas la richesse que produit la nature, évidemment, mais la valeur au sens économique, seul le travail la produit. Mmh. Et donc, si on a une puissance productive décuplée grâce aux machines, à l'intelligence artificielle, etc., etc., toutes les nouvelles techniques, alors ça veut dire que la possibilité de convertir cette richesse matérielle, physique, en espèces sonnantes et trébuchantes, ah bien cette possibilité commence à se raréfier.
Ça
et
signifie
là,
en tout cas.
Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Les économistes dominants commencent à s'affoler sur la diminution considérable des gains de productivité depuis maintenant 30 ans. Il n'y a plus un seul exemple de pays où les gains de productivité ne se sont pas considérablement ralentis.
Et encore une fois, malgré les crises, on voit que le capitalisme reste toujours aussi dominant comme système économique. Hélène Olivier, est-ce que ça signifie que la crise est justement consubstantielle au capitalisme ?
Alors oui, je pense qu'on peut éventuellement dire que le capitalisme rebondit finalement à chaque fois et se réinvente. Après, je pense que l'intérêt éventuel de la métaphore sur l'effondrement, c'est de se dire que on a véritablement besoin d'air pour respirer, on a besoin de notre environnement pour vivre, etc. Et donc, je pense qu'au-delà de la crise du capitalisme, il faut éventuellement envisager la destruction de notre écosystème et du coup de la vie. Voilà. Donc, je pense que je partage beaucoup les points que vous avez abordés, notamment la citation du Capital est absolument incroyable de pouvoir prédictif.
Et de clairvoyance.
Voilà, c'est magnifique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut plutôt que d'essayer d'inventer un nouveau modèle économique, je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver des solutions concrètes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. J'ai beau répéter, finalement, j'espère que quelqu'un va m'entendre.
On arrive à la fin de cette émission. Peut-être qu'on peut entendre votre conclusion à vous, Jean-Marie Haribet. Selon vous, il faudrait justement inventer un nouveau système économique. Et est-ce qu'on peut vraiment sortir du capitalisme ?
Il est à l'ordre du jour. Et on peut faire confiance à l'histoire humaine pour inventer des modèles sociaux qui ne soient pas calqués sur ce qu'on a vécu depuis 3 siècles. En tout cas, les collapsologues, eux, n'ont strictement aucune proposition à faire, sinon à se retirer dans des petites communautés avec des kits de survie. C'est presque, si c'était pas dérisoire, ça serait rigolo. Mais c'est malheureusement à la hauteur des défaillances théoriques et épistémologiques de leur thèse. Je pense qu'il faut effectivement réfléchir, remettre sur la table la question du devenir de l'humanité dans des rapports sociaux différents de ceux du capitalisme.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à tous les deux. Et c'est l'heure de retrouver Xavier Martinet et son journal de l'écho. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Deuxième jour de la visite d'Emmanuel Macron à La Réunion, le président qui a présenté hier son plan d'action économique pour l'île. Il est particulièrement attendu sur la crise du pouvoir d'achat.
Avec des prix de 7% supérieurs à la métropole pour les biens de consommation, 38% si l'on considère les produits alimentaires. Au moment des gilets jaunes, le gouvernement avait répondu avec un ensemble de mesures, notamment une baisse de 10% des prix sur une liste de 112 produits, ce qu'il appelait le BQP, le bouclier qualité-prix. Des mesures donc d'urgence à l'époque. Cette fois, la perspective est plus stratégique et la vie chère est partout. L'expression « si la vie est chère, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment développé la production locale », déclarait lundi le président. Et il affirmait hier lors d'un forum avec des entrepreneurs, autre ambiance, hein, Choose Réunion, où le président affirmait que la réponse à la vie chère est dans l'espace Indo-Pacifique. Deux axes donc, mais jusqu'ici, pas de mesures de financement, déplorent certains entrepreneurs, sauf ce vote hier soir par l'Assemblée nationale d'une baisse de 35% des charges sociales pour les entreprises d'outre-mer. Alors entre le slogan et le plan, il faut bien distinguer, explique Jean-Yves Rochou, économiste et chercheur associé au CEMOA de l'Université de La Réunion.
La vie chère, ça fait partie des totems, là, on en parle tout le temps, alors qu'en fait c'est pas le problème, même le préfet ici le dit. En fait on a un problème de niveau de vie moyen, c'est certain, mais le niveau de vie moyen, sa faiblesse par rapport à la métropole, ça s'explique un petit peu par les prix, à hauteur de 20%, mais surtout du fait du faible niveau de revenus, pour 80%. L'exonération, lorsque c'est réservé à des emplois avec peu de compétences, ça entretient aussi les entreprises dans des activités qui sont des activités de faible compétence. Et c'est pas mauvais dans un premier temps, mais ça nous fait pas des produits vraiment compétitifs. Là, par contre, ça a été augmenté jusqu'à 2 fois le SMIC. Ça intéressait beaucoup en fait les entreprises locales. Parce que les entreprises locales, effectivement, elles embauchent de plus en plus de gens qui ont des niveaux de salaire qui sont relativement élevés, qui correspondent à leur niveau de compétence. Je dirais que le président, du temps que j'étais président, j'aurais dit qu'il rendait une bonne copie sur le plan des généralités. Bon, il fait un choix de trajectoire de développement en disant qu'il faut à la fois augmenter les exportations, les importations, Bon, ça, c'est bien, une ouverture dans les deux sens, et qu'il faut aussi s'ouvrir pour bénéficier des investissements des autres et à investir à l'extérieur. Mais après, ça dérape un petit peu. Bon, il fait le choix d'une zone qui est la zone océan Indien. Bon, commercer avec nos voisins immédiats, c'est sans doute souhaitable, hein, mais je vois pas trop en quoi, en fait, ça pourrait avoir un impact rapide, en fait, ou même un impact tout court, peut-être, sur le niveau des prix qui est pratiqué à l'intérieur de la Réunion.
Des prix qui ont augmenté de 0,6% en un an, et le président Macron, qui avait promis des messages très forts sur l'agriculture et l'emploi, est rattrapé aujourd'hui par l'urgence sociale.
Oui, puisqu'il arrive en pleine grève générale, hein, l'intersyndicale qui refusait d'être reçue ce matin par Emmanuel Macron le verra finalement dans une heure. Entre-temps, le président poursuit ses visites à caractère social dans un quartier de Saint-Denis rénové par l'ANRU ou dans une mission locale d'insertion professionnelle à Saint-Paul. Alors peut-être les annonces seront-elles en deux temps, l'emploi aujourd'hui et l'agriculture demain, car il visitera aussi une exploitation.
On passe au bref, Xavier, avec l'entrée en vigueur aujourd'hui en France de la loi sur les droits voisins pour la presse et les médias d'information. Une loi qui est censée protéger la presse, mais qui est assez risquée.
Oui, l'Alliance de la presse française, la presse d'information générale, porte plainte d'ailleurs devant l'autorité de la concurrence contre Google. Google qui avait déclaré il y a un mois qu'il refusait de se soumettre à cette loi sur les droits voisins. Alors ces droits valables 2 ans pour les éditeurs et agences de presse, c'est simple, ils se feraient rémunérer en raison du contenu dont ils se servaient, dont Google se sert pour leur référencement. Mais non seulement Google refusait de se soumettre à cette loi, mais il refusait aussi de rendre visibles ces médias dans ses résultats de recherche. La France est le premier pays de l'UE à appliquer ce qui est en fait une directive de la Commission cette année. Les autorités françaises ont fortement milité pour. D'ailleurs, la semaine dernière à Toulouse, le président Macron demandait à l'Union européenne d'engager au plus vite toutes les procédures possibles contre les géants du numérique.
Et pour finir, la dernière réunion de politique monétaire pour le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, et les dernières décisions sur les taux. On ne change rien, Xavier ?
Oui, notamment pour ce fameux taux négatif de facilité de dépôt, celui qui rémunère l'argent que les banques placent à la BCE et dont le dépôt aujourd'hui leur coûte, puisqu'il reste négatif à moins 0,5%. Poursuite de cette politique généreuse, donc, est reprise d'ailleurs du quantitative easing dès novembre à 20 milliards par mois. Cette mesure qui a déjà fait racheter par la BCE 2600 milliards d'euros d'actifs depuis 2015. Ceci alors que Mario Draghi laisse une BCE en pleine guerre des roses, dit un analyste, avec un conseil des gouverneurs qui se fissure et une démission récente. Tâche non moins ardue et polémique sans doute pour Christine Lagarde qui prendra ses fonctions le 1er novembre. Elle devra composer d'une part avec cet héritage, la politique d'argent abondant, mais aussi inciter les États qu'ils peuvent à la relance budgétaire.
Merci beaucoup Xavier Martinet. On vous retrouve lundi et je rappelle pour les auditeurs que votre journal de l'écho est possiblement réécoutable sur franceculture.fr et en podcast.
Moi je lui balance que je l'aime. Lui me dit chacun ses problèmes. Lui il est pas là pour les mêmes raisons que moi, hein. Mais y'a comme un truc qui traîne quand même en lui. Y'a moi qui cède à ses sirènes, m'aime-t-il aussi. Moi je suis pas là pour les mêmes raisons que lui, hein. Eh ouais, je fais de la peine à voir. Depuis que j'ai le cœur sur le départ. Depuis que c'est réduit l'écart entre lui et moi hier soir. Contre le bar, chérie, ouais, je fais de la peine à voir. Depuis que j'ai le cœur sur le départ. Mais tu sais comme il est si rare d'aimer si vite sans crier gare.
M'en veux pas de Marie-Flore, extrait de son nouvel album intitulé Braquage. Merci beaucoup Hélène Olivier, Jean-Marie Arribet de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et un grand merci aux techniciens des studios de Radio France à Bordeaux qui ont permis ce duplex. Demain, cap sur les organisations internationales. Le FMI, la Banque mondiale et l'OMC peuvent-ils encore agir sur l'économie mondiale? On en parle avec Marie-Clouis, Dominique Pillon et Jean-Marc Sirouen. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Depuis que j'ai le cœur sur le départ. Depuis que c'est